Les séminaires du Collège de France.
Pour cette dernière séance de notre séminaire sur le calcul sécurisé, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir David Poincheval, qui est encore un grand cryptographe français, donc directeur de recherche au CNRS, actuellement directeur technique de l'entreprise Cosmian. Et avant, il a beaucoup exercé à l'ENS Paris. Il a dirigé le département d'informatique de l'ENS Paris pendant de nombreuses années. Et donc David a fait énormément de contributions à la cryptographie, notamment au chiffrement à clé publique. C'est aussi un des pionniers de l'approche de sécurité prouvée. Donc cette manière de réduire la sécurité d'un chiffrement à la possibilité de résoudre un problème mathématiquement bien posé et algorithmiquement difficile. Donc une approche qu'il a utilisée et développée depuis sa thèse et vraiment poussée très loin. Et donc au sein de Cosmian, et il s'intéresse en particulier au chiffrement fonctionnel dont nous avons très brièvement parlé pendant le cours, et donc il va nous dire ce que c'est et où est-ce qu'on en est là-dessus. Merci David.
Merci Xavier pour déjà l'invitation à faire ce séminaire et pour cette introduction. Donc en effet, je vais vous parler de chiffrement fonctionnel et donc plus avec comme objectif comment réussir à agréger des données sensibles. Et comme toujours, en cryptographie, comment faire des choses, comment manipuler des données sans les connaître. Donc, il y a déjà eu pas mal de cas d'usage présentés lors de cette séance, ces différentes séances de cours et de séminaires. Donc, je vais juste revenir un tout petit peu sur les problèmes de confidentialité et comment on va pouvoir faire des calculs avec des données confidentielles. Et donc, bien sûr, le cas d'usage classique, et je dirais qu'on peut considérer réglé désormais, donc c'est pour lorsqu'il s'agit de chiffrer des données pour soi-même, donc de façon symétrique, où on utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer, ou pour quelqu'un d'autre avec du chiffrement asymétrique, où on a une clé publique qui permet de chiffrer, donc n'importe qui peut chiffrer un message, et seul le propriétaire de la clé de déchiffrement va être en mesure de déchiffrer. Et donc là, ça garantit bien que s'il s'agit là cette fois-ci de faire du stockage, puisque un usage en cloud par exemple, du stockage de données, eh bien, comme la clé de déchiffrement, donc soit SK, soit DK, si on est en symétrique ou asymétrique, est nécessaire pour retrouver le message. Si on fait de l'hébergement de données ainsi chiffrées chez un hébergeur externe, il n'arrivera pas à comprendre, à connaître le contenu de ces données puisqu'elles sont chiffrées. Bon, alors on a toujours une fuite d'information qui est le volume. Mais justement, cette notion de fuite d'information, quelque chose qui reviendra tout au cours de mon séminaire. Donc, en tout cas, on sait chiffrer des données, masquer le contenu des informations, sauf le volume, à un hébergeur externe. Et donc, nul ne pourra accéder à nos données, seuls les détenteurs des clés de déchiffrement. Donc, c'est ce qu'on peut appeler usuellement la privacy by design, puisque là, sans la clé, aucune interception n'est possible sur le contenu des données. Mais la contrepartie de cette privacy by design, c'est que sans la clé, on ne peut pas faire de calcul non plus et on ne peut pas faire de partage d'informations non plus ou de partage de calcul. Alors, je vais modérer un petit peu ça, puisque vous avez quand même déjà eu des contre-exemples tout au cours des différents cours et séminaires. Et effectivement, le chiffrement homomorphe, alors qu'il soit semi-homomorphe, donc s'il est uniquement additivement, multiplicativement homomorphe, somewhat homomorphe, donc c'est l'aspect faiblement homomorphe où on peut faire uniquement un certain nombre de calculs, un certain degré de multiplication, ou s'il est carrément fully homomorphe, où tous les calculs sont possibles. Donc, toutes ces propriétés d'homomorphisme sur un schéma de chiffrement vont rendre des calculs possibles. Et donc, avec, si on part de données complètement claires ici, vous avez des entrées XI, un circuit qui manipule ces données pour fournir un résultat en sortie, alors avec des données auxiliaires éventuellement en plus. Donc, avec du chiffrement homomorphe, donc le cas ultime, le FHE. Donc, il est possible de faire toute cette chaîne avec des données chiffrer. Ou donc, on va chiffrer les inputs, on va modifier un petit peu le circuit pour qu'il manipule cette fois-ci des chiffrés, mais il va pouvoir faire la même chose sur les chiffrés que ce qu'il faisait sur le clair, et on obtient le résultat chiffré. Donc ça semble magique, et une fois qu'on a évoqué ça, on peut se dire, bah, ça y est, on a résolu tous les problèmes, et on peut rentrer chez nous. Bon, alors, outre le problème d'efficacité, qui a déjà été évoqué à maintes reprises, mais ça résout pas tout, et même dans certains cas, ça résout rien du tout, puisque, comme vous le voyez, le résultat, il est chiffré à la fin. Et donc, il faut retrouver le clair. Et c'est tout le problème du chiffrement, c'est que, d'accord, on a pu manipuler les données, mais à la fin, on se retrouve avec un chiffré. Et à qui est-il destiné Donc la question à se poser, c'est qui va vouloir récupérer le résultat? Et donc le FHE, donc je reviens un petit peu sur les contextes d'usage du FHE. Donc comme si on a effectivement la clé de déchiffrement, on va pouvoir déchiffrer le résultat. Mais ce qui est important à garder à l'esprit aussi, c'est que si on a la clé pour déchiffrer le résultat, la clé elle permet aussi de déchiffrer les inputs. Donc, ça répond parfaitement au problème de, et qui était la motivation initiale du FHE, ça répond parfaitement au cas d'usage de l'externalisation de calcul pour soi-même. Donc là, la situation étant, j'ai mes propres données, je vais les envoyer dans le cloud de façon chiffrée, donc ils seront stockés à long terme dans le cloud de façon chiffrée, et lorsque je veux faire des calculs sur ces données chiffrées, je vais demander au cloud, fais telle opération, et j'ai le résultat chiffré à la fin, donc ça ne me coûte rien pour moi, puisque c'est le cloud qui fait tous les calculs, et à la fin, j'ai le résultat, il est chiffré, mais je le déchiffre sur ma propre machine pour avoir le résultat. Donc ça, c'est le FHE répond parfaitement à ce cas d'usage. À modulo, la seule réserve qui est qu'il faut faire confiance, alors tel que je l'ai écrit ici, il faut faire confiance au serveur pour du fait qu'il va effectuer le calcul correctement, puisqu'on lui dit vas-y, fais tel calcul sur mes données chiffrées et renvoie-moi le résultat chiffré. Donc il faut lui faire confiance. Donc ça dépend le type de modèle de sécurité qu'on va faire sur le serveur. Est-ce que l'on considère qu'il est honnête, ou ce qu'on appelle aussi honnête but curious, puisque il va être honnête dans le sens où il va faire les calculs qu'on lui demande de faire, mais il est curieux, c'est-à-dire qu'il va essayer de tout faire pour déjouer la privacy. Autre possibilité pour l'obliger à être honnête, c'est pour ça qu'en cryptographie, on utilise, et vous l'avez vu au cours des différents cours et séminaires, le modèle honnête but curious, qui peut sembler un petit peu contradictoire de dire un attaquant, il n'y a aucune raison qu'on considère qu'il soit honnête, mais souvent on veut se protéger contre l'attaquant pour ce qu'il s'agit de la privacy, et ça, on a vraiment besoin de mettre en œuvre tous les outils cryptographiques pour le rendre honnête au sens qu'il fasse les calculs comme attendu. Là, vous avez eu un séminaire sur les SNARK, donc une généralisation des preuves zero knowledge. On a des moyens cryptographiques aussi pour forcer un serveur à être honnête. Donc c'est pour ça que souvent dans les constructions on passe par le modèle honnête but curious, parce qu'après on a des méthodes génériques pour passer du honnête but curious au modèle qu'on appelle malicious. Mais donc ça dépend aussi, dans la vraie vie on peut avoir des contextes où c'est raisonnable de considérer que le serveur va être honnête pour ce qu'il s'agit des calculs, parce que de toute façon s'il a envie de faire des données de service, il suffit qu'il nous coupe le canal et donc il n'a pas intérêt à faire des mauvais calculs, parce que ça revient au même que de couper le canal. Par contre, donc, avec ce système FHE où on envoie nos données chiffrées et on récupère le résultat chiffré, il n'y a aucun problème de confidentialité. Donc on a vraiment la garantie que tout va bien se passer. Maintenant, le cas d'usage souvent attendu du FHE, c'est de permettre à autrui de récupérer le résultat qu'il a demandé à faire comme calcul sur mes propres données chiffrées, par exemple. Mais dans ce cas-là, il va avoir besoin d'effectuer le déchiffrement du résultat final. Alors, comme je l'ai dit, on va pas pouvoir lui donner la clé de déchiffrement du résultat final, parce que si on lui donne la clé de déchiffrement du résultat, cette clé va lui permettre également de déchiffrer les inputs, et c'est clairement ce qu'on ne veut pas lui permettre. Donc on va lui donner accès à un potentiel oracle de déchiffrement pour qu'il puisse au moins demander le déchiffrement du résultat. Par contre, donc ce contexte est malheureusement mal adapté justement à ce calcul où on met à disposition, enfin, où par exemple je mettrai à disposition mes données, des données sensibles que je possède, et que je permette à autrui de faire des calculs dessus et d'obtenir n'importe quelle évaluation dessus. Puisque, en fait, le résultat sera chiffré et j'aurai besoin de lui donner accès à un oracle de déchiffrement à la fin. Et malheureusement, cet oracle de déchiffrement, il n'y a aucune raison qu'il soit non plus honnête pour demander le déchiffrement d'uniquement le résultat. Il pourrait très bien demander le déchiffrement d'une input identifié. Et même si on contrôle un minimum ce qu'il nous demande, qu'est-ce qui lui empêche de d'évaluer uniquement la fonction identité et de demander le déchiffrement de ce résultat. Alors, bien sûr, l'alternative, ce serait à chaque fois qu'il nous demande un déchiffrement, il nous dise voilà la fonction que j'ai évaluée. Mais alors, dans ce cas-là, s'il nous dit la fonction qu'il a évaluée, autant qu'on fasse le calcul sur les données en clair, ce sera beaucoup plus efficace et lui donner le résultat directement. Donc le cas de ce cas d'usage est assez complexe. Donc Damien Stellé a évoqué des moyens justement de déchiffrement distribué pour justement simuler cet oracle de déchiffrement. Mais il faut vraiment faire très attention à ce qu'on va demander, ce qu'on va effectuer comme déchiffrement, donc sur quel chiffrant à faire le déchiffrement. Puisque sinon, un utilisateur malveillant pourra toujours récupérer les données en clair qui ont été chiffrées initialement. Donc la problématique que l'on va se poser au cours de ce séminaire, c'est essayer de répondre concrètement et d'un point de vue là cryptographique, sans avoir à faire d'hypothèses trop fortes sur les utilisateurs. Comment va-t-on rendre possible le partage de données confidentielles à autrui afin que cette personne puisse faire les calculs qu'il a envie de faire, alors des calculs contrôlés sur ces données sensibles. Alors, encore une fois, on sera obligé de contrôler les calculs qu'il fait, puisque si on lui permet de faire n'importe quelle évaluation de fonction, encore une fois, il pourra évaluer l'identité et donc en évaluant. Alors, contrôler, ça peut être soit effectivement spécifier quelle fonction ou quelle classe de fonction il va pouvoir évaluer, ou le nombre de requêtes ou le nombre de types de fonctions qu'il va pouvoir évaluer. Puisqu'on va voir que à partir du moment où il apprend des informations en clair, et encore une fois, je reviens sur cette fuite d'informations, dès qu'un utilisateur apprend des informations en clair sur des données sensibles, il y a une fuite d'informations et il se peut que cette fuite d'informations révèle beaucoup plus de choses que ce qu'on avait imaginé initialement. Et donc c'est tout l'objet effectivement du chiffrement fonctionnel, comme Xavier l'a évoqué un petit peu et je reviendrai aussi effectivement que l'IO permet de faire ce chiffrement fonctionnel, mais si on ne compte que sur l'IO pour en faire, on fera pas grand chose. Fonctionnellement, idéalement, que permet le chiffrement fonctionnel? Il permet, donc dans un premier temps, je vais donner la version de base du chiffrement fonctionnel, c'est on va avoir une autorité, donc c'est un système avec une autorité centralisée pour le moment, qui va générer une clé maîtresse, clé publique maîtresse, donc MPK, qui aura également une clé secrète maîtresse MSK, et le rôle de ces différentes clés va être pour générer d'autres clés. Alors tout d'abord, la clé MPK, la clé MPK ne sert pas à générer d'autres clés, mais elle sert à chiffrer. En fait, c'est la master clé de chiffrement. Donc ça permettra à n'importe qui de chiffrer ses propres données sous cette clé publique. En revanche, la clé secrète, elle va permettre à l'autorité, puisque seule l'autorité possède cette clé secrète, je ne l'ai pas dit, mais la clé publique, comme son nom l'indique, elle est publique, donc tout le monde la connaît et permet donc à tout le monde de chiffrer. Et la clé secrète donc permet à l'autorité de générer des clés de déchiffrement fonctionnel. Donc le déchiffrement va être fonctionnel, c'est-à-dire que la clé DKF, donc comme on le voit, elle est indicée par une fonction F, et donc pour toute fonction F souhaité par un utilisateur, on pourra générer une clé DKF qui, lorsqu'on l'opère sur le chiffré qui a été généré, là, le chiffré qui se trouve dans le cloud, bien, donc le chiffré qui a été généré sous la clé MPK, donc le chiffré de X qui a été généré sous la clé MPK, lorsqu'on va déchiffrer ce chiffré sous la clé DKF, contrairement à un déchiffrement classique qui nous redonne le clair petit x, là il nous redonnera f de x. Donc virtuellement, que va faire, donc si on parle effectivement d'IO virtuel, etc., ou de virtual black box, ce qui va se passer, c'est que virtuellement, le déchiffrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déchiffrer X, il va appliquer F de X, et il nous retourne que le résultat de F de X. Mais bien sûr, on n'a aucune information intermédiaire sur le X avant qu'il passe dans la fonction F de X. Donc oui, il y a eu une petite animation qui s'est faite au fur et à mesure, donc où vous aviez l'utilisateur à gauche qui a généré son chiffré, les deux utilisateurs qui, eux, ont obtenu des clés pour deux fonctions différentes, et lorsque ces fonctions sont appliquées, lorsque ces clés de déchiffrement sont appliquées sur le chiffré, ben, vu qu'ils ont tous les deux clés différentes, ben, ils obtiendront des clairs différents, puisque ces deux clés fourniront des clairs donc agrégés de façon différente. Alors j'ai mis un plus et un multiplié, donc on voit qu'il y a deux calculs différents qui auront été faits en fonction des droits, d'une certaine manière, qui auront été donnés aux deux utilisateurs. Donc on voit qu'avec cette méthode, donc, enfin, en tout cas avec cet outil, qui encore pour le moment est très, très formel et non explicite, ça permet en tout cas de fournir des résultats en clair d'évaluation sur des fonctions donc, spécifiques. Donc ça permet, ça résout le problème que j'évoquais tout à l'heure, ou que le FHE avait un petit peu de mal auquel le FHE avait du mal à répondre, puisque là, on a vraiment un résultat en clair et il n'y a plus besoin de faire de déchiffrement, on n'a plus besoin de faire confiance à qui que ce soit. Alors, juste pour illustrer quand même dans un premier temps ce que ça permet de faire, le functional encryption, et quelles sont les applications. Et donc, dès le début, alors quand ça a été proposé, donc il y a maintenant près de 15 ans, d'un point de vue idéal, et donc ça a mis d'ailleurs un certain temps à sortir de ces classes de fonctions que j'évoque ici, ça montrait qu'on pouvait faire en gros tout ce qu'on savait faire en cryptographie jusqu'à présent, à savoir ça permet de faire du chiffrement à clé publique, parce que si finalement MPK on dit c'est la clé de chiffrement, et que la clé fonctionnelle on va dire je veux uniquement la clé fonctionnelle de l'identité, exactement ce que j'évoquais tout à l'heure aussi dans le cadre du FHE, une donnée qui aura été chiffrée sous la clé MPK, donc on peut voir que c'est ncrim', c'est le nouveau schéma de chiffrement sous la clé EK, mais donc c'est les deux mêmes algorithmes, j'ai juste changé les noms des clés puisque je les ai renommées. Par contre, le déchiffrement, quand je vais appliquer le déchiffrement avec les clés DK identité, eh bien finalement ça va me donner l'identité de X, puisque c'est ce que fait virtuellement le déchiffrement fonctionnel, et donc l'identité de X c'est X, et donc c'est ce que je vais appeler le decrypt prime fait sous la clé de déchiffrement des cas. Donc ça me donne du chiffrement à clé publique. Bon, c'est une usine à gaz pour faire du chiffrement à clé publique, mais en tout cas ça couvre le chiffrement à clé publique. On peut voir aussi que si on prend une fonction un petit peu plus compliquée qui est indicée par une identité, et qui prend deux arguments en entrée, X et U, X étant le payload, le contenu vraiment du message, et que U va être une identité aussi. Et on peut faire en sorte que la fonction va vérifier si l'identité qui est contenue dans la paire XU, c'est mon identité à moi, la fonction va me donner le X. Si ça n'est pas mon identité à moi, enfin l'identité associée à la fonction FID, ça va me retourner bottom, ça va me retourner rien. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en voyant la description que je mets? Ça fait qu'on va pouvoir chiffrer un message X à destination d'un utilisateur U. Et lorsque l'on déchiffre, grâce à notre clé fonctionnelle qui est spécifique à mon identité, si la cible initiale du chiffré, c'était l'identité U qui est la mienne, je peux déchiffrer. Si ce n'était pas moi le destinataire, je ne peux pas déchiffrer. Et ça, c'est ce qu'on a appelé au début des années 2000, le chiffrement basé sur l'identité. Plus généralement, je ne vais pas en décrire plus en détail, mais au lieu que le U soit une identité, ça pourrait être un ensemble d'identités, et là cette fois-ci que la fonction vérifie que mon identité à moi est dans cet ensemble U, et c'est exactement le chiffrement broadcast, c'est-à-dire que lorsqu'on chiffre, on va cibler un ensemble de destinataires autorisés à déchiffrer, et si ma clé de déchiffrement fonctionnelle fait partie de ces destinataires, je peux déchiffrer. Et encore, de façon plus poussée, on peut, au lieu d'avoir des simples tests d'égalité, avoir là ce qu'on appelle le chiffrement basé sur les attributs ou chiffrement par prédicat, etc., où là, maintenant, ma fonction va être indexée par un prédicat, donc une formule booléenne. Le chiffré va être le chiffré de X, le message associé à des attributs. Et si mon prédicat, le prédicat qui est associé à ma clé, valide les attributs, je vais pouvoir déchiffrer et obtenir X. S'il ne valide pas les attributs, je ne vais pas pouvoir déchiffrer X. Et d'ailleurs, on peut inverser les attributs et le prédicat pour faire du chiffrement ciphertext policy ou key policy pour la BE. Mais tout là, tout ce que vous pouvez voir ici, on pourrait se dire, bon, c'est très bien, et ça a été comme ça que aussi le chiffrement fonctionnel a été mis en avant au tout début, ça couvre tout. Mais malheureusement, justement, toutes les constructions qui ont été faites au début étaient de refaire ce qu'on savait faire. Et c'est-à-dire de faire ce que j'appelle du chiffrement tout ou rien. C'est-à-dire que selon les droits que je possède, je peux déchiffrer ou je ne peux rien obtenir. C'est quand même pas ça l'esprit qu'on peut imaginer du FE, et notamment si on veut le voir un peu une alternative au FHE dans certains cas, le FHE, il fait vraiment des calculs, et donc c'est ce qu'on aimerait pouvoir faire. Donc, que peut-on faire comme véritable calcul avec du functional encryption? Alors, là, je reprends la phrase de Xavier tout à l'heure, avec l'inescapability obfuscation, on peut tout faire. Maintenant, comme on ne sait pas faire l'inescapability obfuscation, on ne peut pas encore tout faire. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire? Non. Heureusement, on peut faire quand même un certain nombre de choses. Et notamment, on peut quand même calculer un certain nombre de fonctions utiles. Et je vais essayer de les motiver par la suite. Et donc, on peut calculer un certain nombre de fonctions concrètes, à savoir notamment les plus simples, mais déjà relativement utiles, les produits scalaires. Donc, ce que l'on peut calculer, c'est lorsque je chiffre un vecteur petit x, et que je donne à autrui une clé fonctionnelle associée à la fonction f indicée par le vecteur y, donc on voit bien la fonction est indexée par un vecteur y, lorsqu'on va faire le déchiffrement, on va évaluer cette fonction, et donc on va obtenir le produit scalaire entre le x que moi j'avais chiffré et le y qui est associé à la clé fonctionnelle que l'utilisateur a obtenue. On peut aller à un niveau au-dessus, des fonctions quadratiques, donc des formes quadratiques où, cette fois-ci, la fonction elle va être associée à une matrice, alors bon, symétrique, etc. Enfin, on peut voir n'importe quel type de fonction. Donc, en tout cas, là, on va avoir un calcul matriciel qui va s'appliquer, donc une fonction quadratique sur ce x qui va se faire. Et donc l'utilisateur, quand il déchiffre, il va uniquement obtenir le calcul quadratique sur ce vecteur petit x en fonction de la matrice Q qu'il possède. Et donc là, on a vraiment, donc de façon un peu générale, on va pouvoir évaluer, c'est quand même là tout l'intérêt du chiffrement fonctionnel, ça va être d'avoir déchiffré de messages assez gros, et donc en pratique, finalement, quand on veut avoir un message assez gros, comment nous, d'un point de vue mathématique, on va le voir comme un vecteur, comme une liste de données qui sont dans des scalaires la plupart du temps, et la fonction va calculer uniquement un seul scalaire de ce vecteur. Donc c'est pour ça que le titre du séminaire, c'est l'agrégation de données sensibles, puisque l'objectif, c'est bien de faire une restriction d'information. Parce qu'encore une fois, là, si par exemple on faisait simplement retourner une permutation de x, autant donner x, parce que si le résultat du calcul fonctionnel ne réduit pas l'information fournie, ça veut dire qu'avec le résultat, on va obtenir tout le clair, et donc autant donner le clair. Et encore une fois, donc je reviens sur cette notion de fuite d'information. Donc le but du functional encryption a vraiment un intérêt quand il s'agit de partir d'une grande masse de données chiffrées et d'en obtenir une agrégation ou une évaluation intéressante de petite taille. Et donc, un cas d'usage que l'on peut imaginer et qui avait été d'ailleurs celui qui avait été proposé initialement quand on a proposé nous le chiffrement de produits scalaires, c'est donc un produit scalaire, ça n'est rien d'autre aussi que des moyennes pondérées, alors moyennes pondérées ou en tout cas somme avec masque, etc. si on veut. Et donc ça peut avoir un cas d'usage intéressant si on imagine des données temporelles, c'est-à-dire un vecteur x, donc un x indice t, où toutes les périodes de temps, on va fournir ce vecteur XT, et les acteurs qui sont, eux, les destinataires des calculs, eux, à eux, on va leur donner différentes clés fonctionnelles qui vont être associées au poids auxquels ils vont avoir accès. Donc chacun va pouvoir calculer le produit scalaire du vecteur AI avec le vecteur XT en fonction de l'acteur qu'il est et en fonction des droits qu'il peut avoir. Et donc, à chaque période de temps, moi, je vais chiffrer mon vecteur XT. Et tous ceux qui ont déjà leurs clés qui ont été générées, donc indépendamment des chiffrés, puisque la génération des clés et la génération des chiffrés sont deux choses qui peuvent être faites de façon totalement concurrente et indépendante, vont pouvoir obtenir le déchiffrement sur un déchiffrement fonctionnel sur mon XT. Et donc ils obtiendront le produit scalaire. Et donc le cas d'usage que j'évoquais, donc imaginons par exemple les notes dans un établissement. Où vous allez, XT, ça va être le vecteur de toutes les notes de tous les élèves dans toutes les matières, etc., pour un trimestre donné. Et ensuite, les acteurs vont être, ça va pouvoir être les enseignants d'une certaine classe, les enseignants d'une certaine matière, les élèves, le professeur principal, etc. Et selon le type d'acteur dans la vie scolaire que l'on peut être, on va avoir accès à l'intégralité des notes, soit uniquement la moyenne d'une classe, la moyenne d'une matière, etc. Et ça peut parfaitement être caractérisé par le vecteur AI qui va être donné à chacune des personnes. Donc, ça va pouvoir faire des filtrages, des moyennes, etc. C'est uniquement avec des produits scalaires, on peut faire tout cela. Et donc, pour vous donner aussi une idée de comment on peut le faire concrètement, puisque là, je ne parle plus d'IO, mais on peut vraiment le construire concrètement, on peut le faire avec du chiffrement type Elgamal. Alors même type Elgamal, en utilisant plutôt le terme Elgamal exponentiel, comme Xavier l'utilisait. Alors je crois que ça a plutôt tout le temps été utilisé avec notation multiplicative. Là, je vais l'utiliser avec notation additive, mais ça ne change rien. Hein. Donc au lieu de mettre les choses dans les exposants, je multiplie le scalaire devant. Donc c'est ce qu'on utilise en général quand on travaille sur des courbes elliptiques. On préfère la notation additive plutôt que la notation multiplicative. Donc le grand G, ça peut être une courbe elliptique, ça peut être un corps fini, ça peut être ce que l'on veut. Et donc la master secret key va être un vecteur de scalaire, petit s, donc de taille n, qui va être la taille des données des vecteurs que l'on va chiffrer. Et la master public key, ça va être S fois P, c'est-à-dire en fait, ça va être S1 fois P, virgule S2 fois P, virgule S3 fois P. Donc ça va être un vecteur de points dans l'espace G. Donc en gros, ça va être, si on voit Elgamal, chaque SI, c'est une clé secrète Elgamal, et chaque H indice I va être une clé publique Elgamal. Puisqu'en fait, chaque HI, ça va être un SI fois P, et donc ça va être une clé publique Elgamal. Et quand on veut faire une clé fonctionnelle pour un vecteur petit y, on va faire le produit scalaire entre le vecteur S et le vecteur y, qui est la fonction que l'on veut permettre comme calcul. Et maintenant, quand je veux chiffrer le vecteur x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un Elgamal, finalement, tout bêtement, mais je vais le faire de façon vectorielle, ou ce qu'on appelle réutiliser le petit r, c'est-à-dire on va avoir le random du Elgamal que je mets dans le C0, et dans le vecteur C, en fait, je vais faire plein de Elgamal en parallèle, avec les différentes clés publiques H1, H2, H3, avec le même R pour tout le monde. Donc on voit, je fais X fois P, donc ça c'est le clair, que je masque par R fois H, et donc qui est le R fois H, et en fait c'est plein de masques Diffie-Hellman qui sont mis de façon vectorielle. Et donc donc d'une certaine manière, je vais masquer chaque XI par un Diffie-Hellman différent. Et là, si on voit le calcul, alors je ne vais peut-être pas le détailler, mais vous l'avez présenté ici. Si on voit le calcul du produit scalaire de Y et du vecteur C, bon, si vous allez tout en bas à droite, vous voyez que ça nous conduit à le produit scalaire de X et de Y fois P, plus quelque chose qui ne dépend plus que de C0 et de la clé fonctionnelle liée à Y. Et donc on voit bien qu'en faisant Y, le produit scalaire de Y et de C moins le produit scalaire de la clé fonctionnelle des KY et C0. Enfin, là, ce n'est plus un produit scalaire, d'ailleurs, c'est un produit scalaire point dans le groupe. J'obtiens le produit scalaire de X et de Y multiplié par P. Donc, on retombe dans le problème du Elgamal exponentiel, c'est qu'à la fin, j'obtiens, alors si on reprend la notation multiplicative, j'obtiens G puissance le produit scalaire de X et Y. Donc, je vais avoir besoin à la fin de faire un logarithme discret pour retrouver ce produit scalaire. Donc on va avoir la contrainte qu'il faut que x et y soient pas trop grands, mais encore une fois, pas trop grands pour qu'on puisse faire le logarithme discret. On peut le faire même si on va à 10 puissance 5, 6, 7, 8, on peut faire le logarithme discret. Bien sûr, ça ne met pas en danger la sécurité du Diffie-Hellman et du chiffrement Elgamal, parce que là, on a petit p, lui, qui est sur 256 bits. Et le random et la clé secrète sont bien sûr, eux, des aléas de très grande taille, et donc où l'entropie est très grande. C'est uniquement sur x et y qu'on va avoir à imposer un petit peu la taille. Donc là, ça marche, c'est le schéma qu'on avait proposé en 2015, donc qui permet effectivement de faire du chiffrement fonctionnel pour les fonctions linéaires. Et en fait, on peut même le généraliser avec, dès qu'on a du chiffrement additivement homomorphe, donc avec Paillet, avec Regev, LWE, d'autres, donc Castagno, Salé-Guillaumi. Donc plein de tout schéma de chiffrement additivement homomorphe pourra s'adapter pour obtenir ce que je viens de présenter. Alors, maintenant, donc ça semble très joli ce que je viens de vous présenter, mais bon, c'est faut justement, comme on est honnête, nous on expose les limites de ce qu'on présente, effectivement. On est obligé de présenter les contraintes aussi de tout ce qu'on décrit. Alors les contraintes là, elles sont pas sécuritaires. Alors si, elles sont sécuritaires, mais je l'ai déjà dit, on repose sur la sécurité sur le Diffie-Hellman, donc on va reposer sur une hypothèse mathématique bien claire, mais il va y avoir aussi d'autres limites qui sont plus des limites fonctionnelles qui vont apparaître. C'est que, alors, ce qui est déjà très positif, c'est que quand on a une clé fonctionnelle, on ne peut calculer que le produit scalaire avec ce vecteur Y, c'est ce que l'on souhaitait obtenir. Par contre, vous allez me dire, puisque vous voyez ce qu'on peut faire avec de l'algèbre linéaire, si je vous ai fourni n clés fonctionnelles avec pour n vecteurs yj différents, vous avez n relations linéaires sur un même secret petit s de n inconnu, algèbre linéaire, vous retrouvez le petit s. Alors vous allez me dire, mon schéma là, il n'est pas sûr du tout, parce que au bout de n clés fonctionnelles, je retrouve la master secret key. En fait, vous pouvez vous rendre compte que si on oublie maintenant le schéma explicite que je vous ai présenté, le schéma idéal, prenez un schéma idéal de chiffrement fonctionnel pour du produit scalaire, vous voyez que avec n clés fonctionnelles, vous avez le droit d'obtenir n relations, n produits scalaires sur le secret petit x, sur le vecteur x, qui est également un vecteur de taille n. Et donc, de l'algèbre linéaire, vous pourrez également le faire sur le vecteur petit x. Donc, de toute façon, si vous avez accès à n clés fonctionnelles, d'accord, ça vous donne accès à la clé secrète, à la master secret key, mais de toute façon, ça vous donne accès à l'intégralité du clair que j'avais chiffré dans mon chiffré fonctionnel. Donc, ce n'est pas du tout lié au schéma concret que j'ai présenté, c'est lié à la fonctionnalité en général. Donc, en pratique, il faudra veiller à ce que le nombre de clés qui est généré ou en tout cas possédé par un même adversaire ou regroupement d'adversaires, il faudra veiller à ce que le nombre de clés qui lui sont fournies reste limité, en tout cas au cours du temps. Une autre contrainte qui peut sembler beaucoup plus forte, c'est que le vecteur X, là dans la construction que je vous ai présentée, comme le R, l'aléa que j'ai utilisé, il masque toutes les composantes de X d'un seul coup, on se rend compte qu'il faut à tout prix que le vecteur X soit chiffré d'un seul coup, en une seule fois, par la même personne. Ça peut être une contrainte, et cette contrainte a été levée par la suite. Il y a eu ce qu'on appelle le chiffrement fonctionnel multi-input qui a été proposé, qui permet, donc ça reste un mono-utilisateur qui va chiffrer, là cette fois-ci, qui va pouvoir chiffrer les XI à différentes périodes de temps, qui ne va pas avoir besoin de tout chiffrer d'un coup. Mais même ce qu'on a fait par la suite, c'est le chiffrement fonctionnel multi-client, où là même on va pouvoir faire en sorte que les composantes XI du vecteur X ne soit pas chiffré par la même personne, mais puisse venir de personnes différentes, éventuellement concurrentes, qui ne se font pas confiance, etc. Donc on retombe finalement, là je vais arriver un petit peu à des alternatives au MPC, parce qu'on va pouvoir faire des calculs sur des données qui appartiennent à différentes personnes, qui ne se font pas confiance. Alors la grosse différence avec le functional encryption par rapport au MPC, alors même si c'est le même objectif dans le MPC, c'est que là nous on se met la contrainte qu'il ne faut pas du tout d'interactivité. Donc le MPC essaie de réduire les interactions. Là, nous, on s'interdit même complètement les interactions, puisque le chiffrement doit être, on envoie un chiffré, il n'y a pas de possibilité d'interaction entre les différents clients. Donc, alors pour revenir, pour poursuivre un petit peu dans les limites et pour montrer aussi à quel point finalement ce que je viens de vous présenter avec le chiffrement fonctionnel mono-utilisateur, ça n'a pas grand intérêt. C'est que un cas d'usage le plus classique qu'on puisse imaginer, c'est finalement sans doute celui qu'on voit le plus utile, c'est finalement une moyenne. Alors je parlais de moyenne pondérée parce que justement je pouvais faire n'importe quel vecteur Y, mais en pratique finalement qu'est-ce qui nous intéresse en général, c'est la moyenne arithmétique, donc avec le seul vecteur 1, 1, 1, alors 1 sur N, 1 sur N, 1 sur N. Mais bon, quand on a la somme, on a la moyenne. Donc moi je me contenterai de parler de la somme. Et s'il s'agit de tout le temps faire un chiffrement fonctionnel pour que le destinataire calcule la somme, pourquoi s'embêter, comme je suis le seul utilisateur à faire le chiffrement, je suis capable de faire la somme moi-même, autant que je chiffre la somme et que je donne la clé de déchiffrement au destinataire. S'il n'y a qu'une seule clé, fonction qui est connue à l'avance, autant faire ça. Même s'il y a plusieurs clés, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il va y avoir plusieurs quand même types de moyennes qui vont être calculées, mais si le nombre est limité et s'il est connu en avance, finalement, pareil, j'ai intérêt à utiliser du chiffrement à clé publique standard et chiffrer sous des clés différentes les différentes évaluations de fonctions que je veux faire. Donc, le chiffrement mono-utilisateur, l'intérêt est assez limité. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, je vais me poser vraiment la question de comment est-il possible d'effectuer des calculs sur des données d'utilisateurs multiples, et encore une fois, j'insiste bien, comme dans le MPC, des utilisateurs qui ne se font pas confiance, et même je vais donner des cas d'usage où ils sont même concurrents les uns vis-à-vis des autres, de façon non interactive. Et donc pour cela, le chiffrement multi-client a été proposé, où là le cas d'usage est le suivant. Donc vous avez les clients sont à gauche. Ils veulent tous chiffrer des données différentes. Donc là, ils vont chacun chiffrer leur composante XI. Alors là, le schéma de chiffrement est un tout petit peu plus compliqué parce que, alors, on chiffre sous une clé publique MPK, mais il va falloir préciser l'indice qu'on est. Donc on dit je suis le 8e indice, donc je suis XI. Mais on va rajouter aussi une étiquette lambda. Pourquoi ? C'est parce que quand on va avoir plein de chiffrés pour X1, X2, X3, X4, etc., c'est le lambda qui va dire cela représente le même vecteur. Ça va être une manière de dire voilà, tous ceux qui sont sous le même lambda sont pour le même vecteur, parce qu'on va pouvoir chiffrer sous lambda 1, sous lambda 2, sous lambda 3, et si on change de lambda, finalement on change de vecteur. Et donc une fois qu'on a toutes les composantes pour un même lambda, virtuellement finalement on a un chiffré de x, et donc d'un vecteur petit x pour toutes les composantes. Et donc ensuite, en revenant avec la clé de déchiffrement fonctionnel précédente, si j'ai une clé de déchiffrement fonctionnel, je vais pouvoir obtenir f de x pour ce vecteur petit x. Et donc un cas d'usage que l'on peut voir, et que justement c'était des actuaires qui me l'avaient soulevé comme cas d'usage, c'est pour des compagnies d'assurance, évaluer les risques, etc. Eh bien, dans les compagnies d'assurance, elles ont leur liste de dommages que leurs clients peuvent avoir. Donc, vous voyez ici, la compagnie d'assurance 1, elle a 10 vols, 10 incendies, 5 dégâts des eaux, des accidents de voiture, des accidents corporels, etc. Et donc ça, c'est des données. Alors clairement, chacune des compagnies d'assurance ne voudra jamais révéler le nombre de ces dommages pour chacun de leurs clients. Il n'est pas question de partager en clair ces données. Et donc, vous pouvez avoir ça pourtant tous les mois. Et par contre, toutes les compagnies d'assurance auraient toutes envie de connaître le résultat global de toutes les compagnies d'assurance, parce qu'elles pourraient vouloir savoir si des évolutions de leur côté sont des évolutions globales, ou est-ce que c'est purement ponctuel, est-ce que c'est uniquement pour eux. Et donc, la somme intéresse tout le monde. Tout le monde a intérêt à avoir une somme correcte. Par contre, personne ne veut révéler, et encore moins à leurs concurrents, les données qui les concernent. Et donc, comment peut-on partager ces données et permettre des calculs? Et donc, le chiffrement fonctionnel multi-client permet cela. Chaque mois, chaque compagnie envoie, là, on va avoir finalement plein de vecteurs ici. Là, on va avoir du chiffrement fonctionnel pour plusieurs vecteurs, puisque chaque colonne va faire finalement un vecteur. Et on veut la somme de chacun des composantes de ce vecteur. Et donc, chaque mois, chaque compagnie d'assurance va envoyer toutes ces données chiffrées. Et grâce à la clé fonctionnelle de déchiffrement 1-1-1, ça va permettre de n'apprendre que les sommes. Et je vais insister aussi sur un point, s'il manque une ligne, qu'est-ce qui se passe? Si une compagnie, finalement, n'a pas contribué, eh ben, on n'a rien. Parce que s'il manque quelque chose, on n'a pas fabriqué le vecteur X, et donc on n'a pas le chiffrement fonctionnel ne permet pas de marcher. Et ça, encore une fois, je vais revenir sur le fait que ça n'est pas une, ce ne sera pas une limitation des schémas qu'on va proposer, c'est imposé par la fonctionnalité. Parce que imaginez que, et c'est souvent des points que, quand on exposait cette fonctionnalité dans certains cas d'usage, on nous dit « ouais, mais ça arrivera qu'il y a quelqu'un qui ne répond pas et on aimerait quand même avoir le résultat partiel ». Bah, imaginez qu'on puisse autoriser un déchaînement fonctionnel de 2 parmi 3. Bah, vous voyez que si on arrive à avoir 2 parmi 3 ou à partir de 2 parmi 3, bah, à partir du moment où vous avez la somme globale et que vous pouvez faire une somme de 2 parmi 3, bah, vous obtenez individuellement chacune des lignes. Donc, fonctionnellement, on ne peut pas autoriser autre chose que si on a tout le vecteur, on déchiffre. Si on n'a pas tout le vecteur, on n'a rien comme information. Alors, il y a encore une limite à ce multi-client functional encryption que je venais d'évoquer, puisque je vous ai parlé encore d'une clé publique, master clé publique. Et donc, il y a besoin d'une autorité de confiance pour générer les données secrètes, clés de déchiffrement, etc. Donc, ce qui a été proposé aussi, c'est le déchiffrement fonctionnel décentralisé, où là, on n'a plus besoin du tout d'autorité de confiance, où on va avoir une initialisation qui va éventuellement être un peu plus coûteuse, mais on s'en moque un peu. Si ça prend du temps, on le fait une bonne fois pour toutes. Et lors de cette initialisation, chaque client va se générer une clé secrète, une clé de chiffrement. Alors les deux sont secrètes, elles ont un objet différent, donc une clé secrète pour la clé fonctionnelle et une clé de chiffrement secrète également. Et grâce à la clé individuelle de chiffrement EKI, ça va permettre à chacun de générer les chiffrés de XI. Et grâce à la clé SKI, chacun va pouvoir aussi contribuer à son bout de clé fonctionnelle. Et ça va être uniquement si tous les bouts de clé fonctionnelle pour une même fonction ont été générés par tous les clients, le destinataire va être en mesure de finalement générer la vraie clé fonctionnelle finale petit f. C'est-à-dire que si un des clients n'est pas d'accord pour que la clé fonctionnelle pour une fonction f soit générée, la clé fonctionnelle ne sera pas générée. Pareil, si un des clients refuse de fournir sa composante de vecteur chiffré, il n'y aura pas de chiffré produit. Donc là, tout le monde a finalement son droit de veto sur si je ne veux pas qu'un calcul se fasse, il ne se fera pas et ça ne dépend plus d'une quelconque autorité, puisque là, une fois qu'on a la clé fonctionnelle, on peut déchiffrer. Et donc tout le monde, donc comme je viens de le dire, tout le monde contribue au chiffré et à la génération des clés fonctionnelles. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, mais en fait, on voit le problème du chiffrement fonctionnel aussi souvent, c'est que, enfin, comme pour tout chiffrement en général, c'est que quand on a généré des clés de déchiffrement, bah, elles sont disponibles pour l'utilisateur et à jamais disponibles. Et là, c'est pareil pour des clés fonctionnelles. Quand on lui a généré une clé fonctionnelle, il peut l'utiliser et donc l'exploiter pour toujours. Et donc souvent, on a envie quand même de pouvoir révoquer des clés ou révoquer des utilisateurs. Et comme je l'avais évoqué tout à l'heure, le FE, les premières constructions de Functional Encryption ont été faites pour faire de l'ABE, donc c'est-à-dire avec des droits d'accès, de tout ou rien. Et comme on peut le faire aussi pour certaines fonctions, donc linéaire, quadratique, alors je n'ai pas décrit les quadratiques, mais on peut aussi faire du quadratique. Donc on a fait des constructions qui combinent les deux, donc qui permettent d'avoir une fonction qui va dépendre d'une policy grand P et d'une fonction, alors fonction au sens calculatoire qui effectue un vrai calcul, et donc faire en sorte que si la policy est satisfaite sur la liste des attributs grand A, eh bien j'obtiens réellement le résultat f de x, sinon je n'obtiens rien. Et donc ça va évaluer f de x uniquement si la politique de sécurité est satisfaite. Et donc concrètement, la politique de sécurité peut justement servir à limiter les droits, et notamment dans le temps, faire en sorte que bah, des attributs vont être mis dans le chiffré, peuvent contenir une date, et le prédicat qui est associé à ma clé fonctionnelle peut aussi préciser une durée de vie. Et donc bien sûr, l'inconvénient, mais ça c'est, on ne peut pas l'éviter aussi, c'est si, vu que la durée de vie de la clé elle est préprogrammée, si on veut ensuite continuer à avoir droit, bah, il va falloir renouveler les clés, etc. Mais ça, on ne peut pas non plus faire autrement, puisqu'on ne peut pas désactiver à distance une clé sauf à l'avoir préprogrammé pour une durée précise et ensuite renouveler les clés au cours du temps. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait en 2022 aussi, justement, de combiner concrètement de l'ABE et du Multi-Client Functional Encryption linéaire. Donc juste pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on peut faire avec le chiffrement fonctionnel, donc on peut faire du chiffrement fonctionnel pour un seul client, je vous ai dit l'intérêt est un petit peu limité, et donc ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le chiffrement multi-client. Ce qu'on peut aussi faire, soit ça reste centralisé si on a une autorité de confiance globale qui peut être le cas dans certains usages, mais peut-être pas dans d'autres, et donc on peut avoir du chiffrement fonctionnel décentralisé. Je me suis préoccupé pour le moment surtout de la confidentialité du chiffré, parce que c'est l'objectif en général d'un schéma de chiffrement, c'est de protéger le message qui a été chiffré. Mais comme vous voyez, il y a aussi une fonction qui est dans la clé fonctionnelle. Et ce qu'on peut souhaiter aussi comme protection, c'est que lorsque je vous donne une clé fonctionnelle, vous ne savez même pas la fonction que cette clé fonctionnelle va calculer. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle du chiffrement fonctionnel, function hiding, parce que la clé fonctionnelle masque la fonction qu'elle calcule. Donc on a un peu l'obfuscation d'une certaine manière. Et alors on peut après avoir plusieurs niveaux de sécurité, des sécurités statiques où les clés fonctionnelles vont être fixées à l'avance, c'est-à-dire la sécurité va être prouvée quand les clés fonctionnelles sont connues à l'avance. On peut avoir de la sécurité adaptative quand les clés fonctionnelles sont choisies par l'attaquant au cours du jeu d'attaque. On va pouvoir aussi avoir des corruptions d'utilisateurs, etc. Et donc ce qu'on sait faire concrètement, c'est des fonctions linéaires, des fonctions quadratiques, et on peut les combiner avec des droits. Alors maintenant, pour illustrer un petit peu tout ça, je vais vous faire un petit peu un lien aussi avec l'IA, qui est aussi donc un sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer. Ça a été aussi une des premières motivations du chiffrement fonctionnel, c'était comme ça a été le cas aussi pour le FHE, une des premières motivations du FHE, c'était de pouvoir évaluer des réseaux de neurones de façon confidentielle pour pouvoir justement faire des classifications sans révéler l'objet que l'on classifie, externaliser de la classification. Ben là, on peut aussi justement le faire avec du functional encryption, parce que justement, on va aussi pouvoir faire, la clé fonctionnelle va pouvoir contenir l'évaluation du réseau de neurones. Alors, bon, faut pas s'emporter non plus, hein, puisque donc la classification, donc on va en général, c'est mis en œuvre par des réseaux de neurones, qui est une alternance de fonctions linéaires et fonctions non linéaires, donc relu ou sigmoïde, etc. Mais bon, on voit aussi que finalement, l'aspect non linéaire, c'est pour casser justement la propriété linéaire. Et donc, comme fonction linéaire, nous, ça nous a arrangé parce qu'on sait faire les fonctions quadratiques, donc qui ne sont pas linéaires. Et donc, ça nous ouvrait une porte pour pouvoir faire un petit peu implémenter déjà un réseau de l'intelligence, de la classification, le fait d'avoir la possibilité de faire des fonctions quadratiques. L'inconvénient, c'est que contrairement au FHE, où le FHE il va pouvoir évaluer une couche non linéaire, le résultat est chiffré, il peut réévaluer une nouvelle couche non linéaire, etc. Le functional encryption, quand il a fait une première évaluation, on est en clair. Donc là, on ne réitère pas. On ne va pas rechiffrer pour réévaluer, puisque de toute façon, on a révélé le résultat intermédiaire. Maintenant, on est en clair, restons en clair. Et donc, on est limité à une seule couche quadratique chiffrée. Alors, peut-on classifier des données sans les connaître, et donc est-ce que le FE peut permettre ce genre de choses? Et donc je vais vous présenter une expérimentation qu'on avait faite sur la base MNIST, donc Modified du NIST, donc où vous avez ici le tableau, c'était un ensemble de chiffres manuscrits. Et l'objet de tout ce que les personnes de machine learning faisaient à cette époque, c'était d'essayer de reconnaître le chiffre manuscrit. Donc en sachant que les images, là, c'est des images de 28 pixels sur 28 pixels. Et l'objectif de la classification, c'est de pouvoir prédire le chiffre contenu dans cette image. Et donc, en entrée, on a une image 28 par 28, et la sortie du prédicteur, c'est du classifieur, c'est de nous dire, voilà le chiffre de 0 à 9 qui est dessiné sur cette image. Et donc, bien sûr, l'outil standard, c'est d'utiliser un réseau de neurones avec plusieurs couches, etc. Et puis à la fin, donc, en gros, en général, on a les indices de vraisemblance tout en bas et on fait ce qu'on appelle un argmax qui va nous retourner le chiffre qui correspond à l'indice de vraisemblance le plus important. Donc nous, on s'est dit, on va faire ça avec du functional encryption. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir d'une image chiffrée, donc une image 28 par 28 chiffrée. Et en sortie, nous, le functional encryption, il ne sait faire que les fonctions quadratiques, donc il ne saura pas faire le argmax. Donc, on va retourner les 10 indices de vraisemblance. Donc, pour 0, voilà l'indice de vraisemblance pour 0, voilà l'indice de vraisemblance pour 1, etc. Et puis, comme on a les 10 indices de vraisemblance, le argmax, on le fait en clair pour savoir quel est le chiffre qui était contenu dans l'image. Donc, on a, nous, les 10 indices de vraisemblance. Le problème, je reviens encore à cette quantité d'informations et la fuite d'informations, c'est qu'on se rend compte que finalement, comme je retourne 10 indices de vraisemblance, je retourne énormément d'informations, alors qu'on est parti quand même que de 28 par 28 pixels, donc bits. Donc la quantité d'informations dans l'image initiale n'est pas très grande, et la quantité d'informations dans le résultat fourni en clair est relativement élevée. Et élevé au point où, à partir du résultat, on peut refabriquer quasiment à l'identique l'image initiale. Donc là, on se met à se poser la question de... on veut vraiment réduire l'information qui est retournée à la fin par notre mécanisme de chiffrement fonctionnel. Et donc, comment réduire la fuite d'information et surtout, comment caractériser ce qu'on va faire fuir comme information? Et donc là, pour cela, ce qu'on s'est posé comme question, c'est justement comme on ne peut pas dire rien ne fuit, puisqu'il y a le résultat qui fuit. Donc on s'est dit, maintenant, on va préciser ce qu'on veut éviter comme fuite. Et donc pour cela, on a fabriqué, nous, cette fois-ci, maintenant, une variante de cette table MNIST, où nous, on a finalement plus des chiffres manuscrits, mais des chiffres écrits en différentes polices de caractères. C'était une manière de se dire, on va vouloir, donc comme je le mets sur la gauche, on va vouloir classifier un chiffre tout en conservant la confidentialité de la police de caractère. Donc, en pratique, ça pourrait être, on veut pouvoir savoir si une personne a les yeux bleus, mais on ne veut pas savoir si c'est un homme ou une femme, par exemple. Donc, comment on va pouvoir faire une classification qui aide à obtenir le résultat attendu tout en se prémunissant d'abus sur d'autres directions. Et donc, on est obligé d'un peu de caractériser quelles sont les deux dimensions qui nous intéressent, celles que l'on veut apprendre et celles que l'on veut protéger. Et donc, celles qu'on veut apprendre, qu'on veut autoriser à divulguer, c'est le chiffre lui-même. Et celles qu'on veut ne pas divulguer, c'est la police de caractère. Et donc, c'est exactement ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. Et pour cela, on a fait une couche de functional encryption, donc une première couche du réseau de neurones, là, comme vous le voyez là à droite. Donc finalement, la première couche du réseau de neurones se fait avec du functional encryption, mais après on est en clair. Et donc on va laisser finalement notre système compléter le réseau de neurones de façon à avoir un bon résultat sur la classification du chiffre. Et en veillant avec des techniques d'adversarial, réseau de neurones, d'apprentissage adversarial, comment s'assurer que le meilleur réseau de neurones qui essaiera ensuite de classifier sur la police de caractère, s'assurer qu'il puisse pas être très bon. Et donc ce qu'on a réussi à atteindre, alors en tant que cryptographe, je ne suis clairement pas satisfait, parce qu'on voit du 97% ou 58%, quand on dit avec 58% de sécurité, de privacy, on est content, nous on veut du 1,5 plus 2 puissance moins 128, on n'y est pas, ça c'est sûr. Mais en ayant travaillé un tout petit peu dans le machine learning, je me suis rendu compte qu'on ne vivait pas dans le même monde pour les espaces, les probabilités. Et donc, visiblement, on est très content quand on arrive à classifier le chiffre avec qualité 97%. Et on est très content on serait très mécontent si on avait qu'un classifieur de 58%. Et donc, ça sous-entend que finalement, c'est pas bon du tout de pouvoir classifier la police de caractère. Si on hésite entre deux et qu'on a uniquement un biais de 8% pour trouver le bon sur les deux, Bon, c'est ce qu'on a réussi à garantir. Donc en tout cas, ça permet de... Effectivement, pour évaluer quelle est la fuite d'informations, on n'a pas tellement mieux que d'essayer les attaques par apprentissage pour voir quelle est vraiment, puisque c'est un peu le rôle quand même de l'apprentissage, c'est d'extraire le maximum d'informations utiles. Et donc, ça a été une manière ici de voir quelle était l'information que l'on voulait masquer qui pouvait être extraite de notre première couche de déchiffrement. Et donc... La morale un petit peu de tout cela, c'est que quand on veut faire du calcul sécurisé ou confidentiel, il faut vraiment veiller à révéler le strict minimum en clair. Et bon, donc ça rejoint et ça poursuit ou ça valide aussi l'exposé que Pierrick faisait, enfin, à la fin de son exposé sur le vote électronique, où ils ont essayé de proposer des mécanismes où ça ne révélait que le gagnant, où ça ne révélait... Enfin, alors, par contre, pour le vote, je doute que, justement, le grand public accepte d'avoir un résultat d'un scrutin en lui disant « c'est lui qui a gagné, t'as pas besoin d'en savoir plus ». Mais n'empêche qu'effectivement, si on veut se prémunir, si on veut vraiment de la confidentialité, il faut rien révéler, parce qu'on voit bien l'unanimité, ça révèle les votes de chacun. Bon, d'accord, on peut se dire que ça arrivera très, très peu probablement, mais voilà, donc si on a de l'unanimité, on casse la privacy. Donc révéler que le gagnant, ce serait très bien. Par contre, en termes d'acceptabilité, je ne suis pas sûr que ça marche bien. C'est la même chose pour la classification. On se rend compte, et pareil, quand je discutais avec des gens de machine learning, si on veut avoir la privacy maximale, il faudrait dire, voilà, la classification elle donne ça, mais en général, ils veulent aussi la pertinence du résultat. Le problème, c'est que la pertinence du résultat, ça révèle énormément d'informations. Donc, d'accord, de toute façon, pour le moment, tout est fait en clair, mais le jour où on fait les calculs chiffrés, si on fait des calculs chiffrés qui révèlent énormément d'informations en clair à la fin, le calcul chiffré lui-même, finalement, perd un petit peu de son intérêt, puisque, notamment, donc, on le voit bien dans l'apprentissage, que révéler le modèle... Donc même si à la fin de l'apprentissage, on ne révèle que le modèle, il y a des techniques d'inversion de modèle qui permettent de retrouver quasiment l'intégralité de la base de données qui a servi à l'apprentissage. Alors bien sûr, après on peut se dire, je ne vais pas révéler le modèle, je vais donner des accès en oracle, en boîte noire, au modèle. Mais pareil, des descentes de gradient permettent de le faire, surtout justement si on révèle la pertinence. Alors si on ne révèle pas la pertinence, il y a encore de la fuite d'informations, mais beaucoup moins, parce que dans les chutes de gradient, on va avoir besoin de trouver à quel moment il y a la bascule qui se passe, et quand on a la donnée explicite de la pertinence, on a vraiment une granularité très fine. Quand on n'a pas la pertinence, la granularité elle est très grosse, et on va être obligé de faire beaucoup, beaucoup plus de requêtes. Donc les attaques elles vont toujours exister. Par contre, moins on révélera d'informations, plus l'attaque sera longue à mettre en œuvre, parce que plus on aura besoin de faire des requêtes au modèle de classification pour vraiment exploiter l'information qu'il contient. Pour reprendre ce que je viens de dire, justement, la cryptographie va vous permettre de garantir que tous les calculs entre le début et la fin sont confidentiels. Donc, les techniques qui ont été présentées tout au cours de ce cours et des séminaires montrent un minimum de fuite, même donc zéro fuite. Enfin, c'est même l'objet de la cryptographie, c'est vraiment avoir zéro fuite d'informations avec le FHE, avec le MPC, avec le Functional Encryption. Donc on a vraiment toute une phase où on peut garantir qu'il y a zéro fuite d'informations. Par contre, à partir du moment où on donne accès à un oracle de déchiffrement, à partir du moment où on donne accès à un résultat en clair, là, la fuite devient réelle. Et que permet-elle de faire Oui, et donc c'est important de se poser la question aussi du modèle de confiance, comme je l'évoquais tout à l'heure. Est-ce que on a qui est honnête dans le contexte étudié? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'honnête mais uniquement curieux, malveillant? Quels sont les objectifs de l'attaquant? Donc c'est ce que je présentais tout à l'heure, de bien insister sur qu'est-ce que l'on veut protéger, parce que finalement on peut pas dire on veut tout protéger sauf ça. Non, on peut pas dire ça. Il faut vraiment préciser ce que l'on veut protéger et quels sont les moyens que l'attaquant peut mettre en œuvre. Alors, est-ce qu'il a uniquement accès à des oracles? Est-ce qu'on peut vraiment garantir qu'il n'aura pas d'autre moyen que de passer par des oracles pour déchiffrer ou évaluer un modèle? Et donc, pour conclure, le chiffrement fonctionnel autorise des calculs contrôlés sur les données chiffrées. avec la propriété magique que chaque clé va vraiment spécifier la fonction autorisée. Donc avec la clé, on sait vraiment que tel individu ne pourra pas faire autre chose qu'obtenir le calcul autorisé. Par contre, donc le résultat obtenu, enfin par contre, de façon intéressante, le résultat obtenu est directement en clair, contrairement au FHE qui est en chiffré et donc qui a l'avantage qui peut se recombiner indéfiniment, mais à un moment il faut bien passer dans le monde en clair et le résultat est chiffré pour le FHE et ça pose un problème. Mais alors la contrepartie aussi, c'est que contrairement au FHE, les fonctions calculables sont plus limitées. Alors bien sûr, avec l'IO on peut tout faire, mais comme l'IO n'existe pas, on peut pas faire grand chose. Et encore une fois, dans les faits, en gros, je vous ai présenté toutes les fonctions qu'on sait faire concrètement. Donc, on sait faire toutes les techniques d'ABE, etc. On sait faire les fonctions linéaires, on sait faire les fonctions quadratiques, mais on ne sait pas aller au-delà. Aussi, bien se poser la question en termes de confidentialité. Donc, il s'agit de faire des calculs confidentiels. Quel est le résultat attendu en clair? Et en contrepartie, quelle est la donnée que l'on veut? Enfin, quelle est la donnée, ou en tout cas quelle est la portion de données que l'on veut explicitement protéger, parce que c'est pas forcément une donnée elle-même, mais quelle est la direction, la dimension de la donnée que l'on veut protéger. Et donc ma conclusion serait aussi que pour tout calcul sur des données sensibles, avant de se lancer dans quelle technique cryptographique je vais utiliser, je dois d'abord me poser la question de quel résultat en clair je vais obtenir, qu'est-ce que ce résultat en clair va révéler, est-il minimal pour mes besoins, et c'est d'ailleurs, si on revient à la protection des données, la question de savoir si on a bien la donnée minimale utile à son usage, la question elle se pose vraiment aussi d'un point de vue cryptographique, parce que si on révèle plus que nécessaire, eh bien, ça peut faire de gros dégâts. Et donc je finis juste avec une page de référence biblio. Alors, elle n'est pas du tout exhaustive sur le domaine FE. Il y a beaucoup de mes articles, parce qu'en fait, c'est ceux que j'ai cités. Donc, c'est un peu chronologique dans l'ordre des articles qui ont été évoqués au cours de cet exposé. Et je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.